VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Abidjan, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, le président Michel Kafando-Doga de son premier ministre Yacouba Isaac Zida, bien qu'une partie de l'armée réclame sa démission. Dans un discours à la Nation hier, le chef de l'État a jugé inadmissible que les forces armées continuent de perturber la transition. On écoute un extrait des propos du président Kafando.
Premièrement, j'ai décidé de maintenir le Premier ministre en poste, convaincu qu'à 3 mois des élections, tout bouleversement à ce niveau ne ferait que perturber la saine préparation des élections, avec pour risque majeur d'allonger les délais de notre engagement à organiser le scrutin à bonne date. Deuxièmement, le ministère de la Défense, jusque-là détenu par le chef du gouvernement, sera désormais confié au chef de l'État. Au président du Faso. Cette mutation devrait pouvoir régler les questions de dysfonctionnement et surtout de frustration au niveau de l'armée.
Le président burkinabé Michel Kafando. Au Mali, plusieurs djihadistes tués par l'armée dans le sud du pays, limitrophe de la Côte d'Ivoire. Leur principal camp a été détruit dans une forêt jouxtant la frontière ivoirienne. Jean-Roger Bion.
Selon l'armée malienne, des armes, des munitions, des motos ainsi que des documents stratégiques ont été saisis dans le camp. Depuis la semaine dernière, l'armée mène des opérations contre les djihadistes le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Interrogé par l'AFP sur les ennemis rencontrés sur le terrain, des sources dans l'armée ont cité le groupe djihadiste en Sardine, les adeptes du prédicateur islamiste Amadou Koufa et la secte dite des pieds nus, présente dans la région qui milite pour l'application de la charia contre l'enseignement occidental et les campagnes de vaccination.
Au Nigeria, au moins 13 morts et plusieurs blessés dans les explosions qui ont endeuillé l'Aïd el-Fitr, la fête manquant la fin du mois de jeûne de Ramadan, aujourd'hui à Damaturu, la capitale de l'état de Yobe, dans le nord-est du pays. Personne n'a revendiqué les attaques, mais les autorités soupçonnent les militants de la secte islamiste Boko Haram. Au Niger voisin, menace de détérioration des conditions de vie des réfugiés et déplacés dans la région de Difa, au sud-est du pays, à l'approche de la saison des pluies, alors que les attaques de Boko Haram continuent de faire augmenter le nombre des personnes abandonnant leur foyer. Les explications du chef de la mission de Médecins sans frontières dans le pays, El Mounzer Agjidou, au micro de Claire Morin-Gibour.
Il s'agit des attaques, surtout des attaques perpétrées de part et d'autre de la frontière par la terre, souvent des attaques ou aussi par rapport à l'installation des mesures de sécurité que l'État met en place pour sécuriser les zones. Donc tout ça cause le déplacement des populations. Mais le plus fréquent, c'est surtout à la suite des attaques ces derniers moments. Des villages qui sont attaqués, brûlés, où il y a des morts, où il y a des règlements de comptes qui se font. C'est ce qui fait que les gens se déplacent à tout moment.
Quelles sont les principales difficultés pour ces réfugiés?
Surtout de l'eau, la nourriture, la protection, les abris en général, et puis surtout les ouvrages sanitaires. Donc il y a toute cette gamme de besoins qui est là déjà pour les populations auxquelles ils se greffent. Donc quand ils viennent s'ajouter, c'est aussi un problème. Maintenant, les grandes inquiétudes se posent surtout par rapport à la venue de la saison des pluies, où on sait que ça vient avec les moustiques et donc avec les conséquences comme le paludisme et en même temps avec le choléra, les possibles foyers de choléra. Quand l'assainissement n'est pas là, on a vraiment des inquiétudes que le choléra puisse faire des ravages. Dans tout ça, il y a aussi les contraintes sécuritaires, les mesures qui font que les humanitaires n'ont pas facilement accès et ne sont pas très actifs pour apporter la réponse qu'il faut à tous les niveaux. Donc le gouvernement fait ce qu'il fait, les organisations essayent aussi, mais c'est trop loin de couvrir les besoins et ce qui inquiète pour les jours à venir, parce que les besoins ne font qu'augmenter, les causes aussi ne font qu'augmenter tous les jours.
À votre avis, qu'est-ce qui vous permettrait de mieux faire face à la situation aujourd'hui?
Actuellement, nous, à notre niveau, on a Médecins sans frontières, on a essayé d'augmenter un peu sur notre intervention, sur le plan couverture géographique, aussi bien que sur le plan activité, en couvrant plus de centres de santé, en soins de santé primaire, en ajoutant aussi quelques activités de prévention, de paludisme. Mais c'est loin de couvrir, parce que ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est que quand le paludisme va à son pic, ce serait très difficile de couvrir une population très éparpillée dans des villages un peu souvent difficiles d'accès.
El Mounzer Agjidou, chef de la mission de Médecins sans frontières au Niger.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Toujours concernant la lutte contre Boko Haram, après le Tchad, le Cameroun interdit à son tour le port du voile intégral, burqab ou niqab, dans les zones frontalières avec le Nigeria, où opèrent les kamikazes présumés de la secte islamiste nigériane. Décision prise après le double attentat suicide de cette semaine dans la ville camerounaise de Fotokol. Michel Joseph.
Le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Mijiawa Bakari, affirme que ces attentats suicides, les premiers enregistrés dans son pays, étaient le fait de deux femmes en voile intégrale. La mesure d'interdiction d'hier porte non seulement sur le port de la burqa et du niqab, mais aussi sur toute activité susceptible de compromettre la paix et la sécurité, a-t-il souligné. Environ 20% des 22 millions d'habitants du Cameroun sont musulmans. Les sunnites constituent 75% des musulmans du pays et les chiites, qui insistent sur le port du voile, environ 25%.
En RDC, le dialogue national sur l'avenir des institutions organisé par le président Joseph Kabila rend ses conclusions aujourd'hui après 5 jours de discussion à Sibiti. Et puis au Rwanda voisin, controverse autour des conditions de détention de la dirigeante d'opposition Victoire Ingabire, condamnée à 15 ans de prison. Le point avec Nicolas Pinault.
C'est le parti de Mme Ingabire qui a dénoncé un durcissement très sévère des conditions de détention de la présidente des forces démocratiques unifiées à la prison centrale de Kigali. Faux, répond le commissaire général des services correctionnels rwandais. Paul Rwarakabidje a démenti ces informations. Cette lettre ouverte de ce parti qui n'est pas accepté actuellement dans notre pays, je prends ça pour un tract politique, a-t-il déclaré à l'agence France-Presse. À l'étranger, lors du génocide de 1994, Victoire Ingabire était revenue dans son pays en 2010 pour se présenter à la présidence contre le chef de l'État sortant, Paul Kagame. Elle avait été arrêtée peu de temps après son arrivée, après avoir demandé que les auteurs de crimes contre les Hutus soient aussi jugés. Victoire Ingabire avait été condamnée en décembre 2013 pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994 contre les Tutsis.
Burundi, le ministre rwandais de la Défense poursuit sa médiation dans la crise politique burundaise à 4 jours de la présidentielle boycottée par l'opposition, dans laquelle le président Pierre Nkurunziza brigue un troisième mandat controversé. Accord au sommet anti-pauvreté à Addis Abeba en Éthiopie sur une structure financière mondiale pour atteindre les nouveaux objectifs onusiens pour le développement. Mais des organisations de la société civile disent que le nouvel organisme n'inclut pas les moyens d'empêcher l'évasion fiscale. Lionel Gaïma.
Le programme d'action d'Addis Abeba adopté à cette conférence de 4 jours en Éthiopie porte, selon la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, sur une série de mesures audacieuses pour réformer les pratiques financières mondiales et générer des investissements pour faire face à un nombre de défis économiques, sociaux et environnementaux. Il offre ainsi un cadre financier pour les objectifs du développement durable qui vont prendre le relais des objectifs du millénaire pour le développement et qui doivent être adoptés en septembre à New York. Mais ce nouveau cadre n'inclut pas une instance autonome chargée d'asseoir la gouvernance mondiale en matière de fiscalité, c'est que réclamaient les ONG. Les impôts ont occupé une bonne partie des discussions à Addis Abeba où il a été souligné qu'une autorité fiscale forte, à la différence de l'actuel comité consultatif de l'ONU sur la fiscalité, pourrait dans les pays en développement lever d'énormes sommes d'argent et mettre fin à l'évasion fiscale dont sont accusées les compagnies internationales. L'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays riches se sont opposés à la création d'une telle autorité dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Alvin Monsioma, directeur exécutif du réseau de la justice fiscale en Afrique, se félicite d'un certain nombre de ces éléments, mais, ajoute-t-il, les organisations de la société civile estiment que l'accord n'est pas aussi ambitieux qu'elles l'espéraient. Je crois que les pays en développement ont subi des pressions de la part de pays riches pour accepter ce document de compromis. Je crois que les gros intérêts ont prévalu. les intérêts des riches en particulier. L'accord d'Addis Abeba comprend une série d'actions et d'initiatives dont la création du Forum mondial pour les infrastructures afin d'identifier et combler les lacunes dans son domaine. Bien que l'ONU qualifie cet accord d'historique et de tournant dans la coopération internationale, certains de ses points sont très similaires à ceux qui avaient été adoptés il y a 15 ans. Par exemple, les pays présents se sont engagés à consacrer 0,7% de leur PNB à l'aide à l'étranger.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.